Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Sciacca l'ingresso in aria ancora, Kaká davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il destro,
e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 18 du podcast Calcio EPP, le podcast 100% football italien. C'est déjà l'épisode 18 et je suis toujours avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
C'est toujours moi, salut et salut à tous.
Alors Guillaume, 18e épisode. 18, ouais. Un numéro de maillot assez célèbre quand même en Italie, en Serie A. Et ça n'a pas été répété, donc c'est là où il va falloir que tu sois bon. Cher Guillaume, est-ce que si tu peux me donner 18... un numéro de maillot 18 assez connu?
Montolivo.
Oui, alors oui, ça marche.
Montolivo.
On a eu aussi Mario Lemina à la Juventus. Forcément le meilleur des souvenirs. Gary Medel à l'Inter. C'est, voilà pour les, ça c'est les plus récents. Et puis pour les plus anciens, on va quand même en citer deux ou trois. Il y avait Battistuta à la Roma la saison du Scudetto 2000-2001. On a eu Antonio Cassano à Bari, là où il a débuté. Roberto Baggio au Milan, puisque le numéro 10 était déjà pris par un certain Savicevic. Et puis on peut citer également un Pippo Inzaghi lors de la Coupe du Monde 2006. Et oui, ça ne nous rajeunit pas.
Et d'un côté aussi, est-ce que je peux rajouter Zamorano, qui avait le 1 plus 8?
Exactement.
Est-ce que ça compte?
Et ça compte, c'était la petite triche pour arriver à 9, vu que c'était déjà pris par Ronaldo de mémoire. Mais oui, il avait rajouté un petit plus entre le 1 et le 8 de son numéro 18. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. On a un programme qui est assez chargé. Je te propose de commencer directement, Guillaume, par... Alors, on a décidé de faire un petit sujet en mêlant trois clubs avec trois joueurs qui se sont un peu, on va dire, montrés à leur avantage ce week-end. Dans ces trois clubs, il y a l'AC Milan, la Juve et la Roma. Et donc, on a décidé de mettre un focus sur trois joueurs, un par club.
avec trois joueurs qui étaient partis pour débuter la saison comme remplaçants, qui l'ont tous d'ailleurs débuté comme remplaçants, et puis qui petit à petit, alors c'est plus marqué pour l'un d'entre eux, puis ça commence à venir pour les deux autres, bah commence à se révéler, et on se demande quelle pourrait être la suite de la saison pour ces joueurs-là, une fois que d'autres reviendront de blessures, etc. Ces trois joueurs, on va commencer par le premier, qui s'agit donc de Tiemwe Bakayoko, et je te laisse commencer du coup Guillaume.
Dieu sait que ça a été compliqué pour Tiemwe Bakayoko. Les premiers mois avaient été très difficiles, sifflés, les prestations étaient pas bonnes, et c'était très compliqué sur le terrain. Gattuso l'a beaucoup tensé aussi, l'a beaucoup critiqué. Après, c'était pas de la critique mauvaise, c'est de la bonne critique dans le sens où il voulait voilà qu'il progresse, qu'il comprenne. Il l'incitait beaucoup à apprendre la langue. Et il y a eu un déclic, évidemment, c'était le passage en 4-4-2. Elle a un peu forcé aussi par rapport au nombre de buts marqués et au fait des blessures. Gattuso passe en 4-4-2, le même schéma qu'il a connu à Monaco avec Fabinho, notamment dans l'axe de ce milieu. Et là, tout a changé, il a commencé à progresser, il a monté en puissance, il a gratté de plus en plus de ballons. Le dernier match contre Parme, il en a gratté 24. Entre les ballons interceptés, les duels gagnés, il a gagné 24 ballons, ce qui est notoire. Et voilà, il monte en puissance et... Comme quoi, le vent tourne vite dans le football. Maintenant, tous les tifosi qui l'ont sifflé, et d'un côté, à juste titre, et lui-même le reconnaît, c'est pas un moment de baisse, c'est juste que c'est vrai qu'il était, tu te rappelles de ces matchs, Johan?
Ouais.
C'était très compliqué, très difficile. Voilà, en Italie, on sait qu'il n'y a pas de temps. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps, surtout à Milan où le club essaie de se reconstruire. Donc, on n'a pas le temps d'attendre les joueurs à Milan. Et, depuis quelques matchs, on va dire 5-6 matchs, c'est un autre joueur. Et on l'a encore vu dimanche. Alors, ça se passe bien, c'est l'un des meilleurs joueurs, il a eu 6,5 je crois dans la Gazzetta aujourd'hui, donc le meilleur joueur du Milan dimanche. Après, et je te renvoie le ballon Johan, c'est quid de son option d'achat 35 millions, parce que Milan a commencé à y penser, et c'est vrai que 35 millions, est-ce que c'est trop ou pas? Je te laisse juger.
Bah, en fait, ce qui est difficile à l'heure actuelle pour se projeter avec le Milan, c'est quel va être l'impact des sanctions de l'UEFA lié au fair play financier, parce que jusqu'à présent on ne sait pas. On rappelle qu'ils avaient été dans un premier temps exclus de Coupe d'Europe cette saison, et le TAS a annulé cette décision, donc ça a été renvoyé devant une chambre de l'UEFA qui doit donner une décision. Alors au départ c'était en début d'année prochaine, là visiblement ça serait courant décembre.
Ouais.
Donc on saura pas quel sera l'impact de ça. Parce que, bah, on le sait, hein, il y a plus de 200 millions d'euros de delta entre les recettes et les dépenses par rapport au dernier mois entre le propriétaire précédent Lee et puis la reprise par Elliott, la reprise en main cet été par le fonds Elliott. Donc il y a un énorme delta qui ne correspond pas évidemment au règlement du fair play financier. Quelles peuvent être les sanctions? Est-ce qu'on peut aller quand même sur une sanction, une privation de coupe européenne, est-ce qu'on peut aller vers une énorme, une très grosse amende ou pas? Est-ce qu'on va les obliger en leur disant, bah, écoutez, à ce moment-là, on vous exclut pas de la Coupe d'Europe, mais par contre, sur les trois prochaines années, donc le prochain exercice de trois ans qu'on va analyser, vous n'avez pas le droit d'être à plus de 30 millions d'euros de dettes, comme c'est le cas dans le fair play financier. Et à ce moment-là, vous pourrez participer à la prochaine Coupe d'Europe pour laquelle vous vous qualifierez. Parce que le souci, c'est que ne pas être exclu d'une Coupe d'Europe, c'est très bien. Évidemment, c'est ce que cherche l'AC Milan. Le problème, c'est que si on leur donne des échéanciers assez précis sur un montant de dette qu'ils ne doivent pas dépasser, ça a été le cas pour plein d'autres clubs. Hein. La Roma a eu l'Inter aussi, ce cas précis, entre guillemets, ça veut dire que le Milan va devoir faire très attention à qui ils peuvent acheter. On rappelle que dans les comptes ne sont déjà pas compris les 35 millions d'euros de Paqueta qui va arriver cet hiver. On rappelle aussi qu'il y a quand même assez peu de joueurs avec une forte valeur marchande, qu'il y a aussi des joueurs qui sont en prêt, donc ils ne peuvent rien rapporter. C'est le cas d'Higuain. Si on lève pas l'option d'achat, il repart et ça rapporte rien à l'AC Milan. Et donc le cas de Bakayoko, dont l'option d'achat est encore de 35 millions d'euros. Donc si l'AC Milan décide de faire Paqueta plus Bakayoko, ça fait déjà un nouveau delta de 70 millions d'euros. Assez énorme.
Ce que pourrait faire Milan si vraiment ils veulent le racheter, et honnêtement, s'ils continuent comme ça, je pense que ce serait une option envisageable et envisagée. Ce qu'ils peuvent faire, c'est ne pas lever l'option d'achat et ensuite, par exemple, aller négocier avec Chelsea. Par exemple, un prix autour de 20 millions. peut-être que voilà, Chelsea en soi, je pense pas qu'ils souhaitent le récupérer. Je pense pas que c'est dans leur plan. D'ailleurs, pour info, en parlant de Chelsea, c'est vrai que Milan négocie aussi pour Fabregas.
Ouais.
Ah, c'est des rumeurs qui
est en fin de contrat, lui, c'est ça, non?
Il est en fin de contrat, mais il a assuré qu'il partait en juin.
D'accord.
Enfin, qu'il partait. Du moins, il a assuré qu'il partirait pas en janvier. Et que, éventuellement, s'il partait, ça serait en juin. Donc, voilà, ils ont à négocier apparemment sur 2 ans de contrat. Mais, pour revenir à Bakayoko, c'est vrai que, voilà, t'as raison sur le cas du fair play financier. Moi, je pense qu'il pourrait avoir peut-être une grosse amende et peut-être, tu sais, une restriction aussi, pas avoir le droit, par exemple, d'inscrire certains joueurs, tes nouveaux achats, une limite d'effectifs, comme par exemple, vous savez, le PSG, tu te rappelles, au tout
Bien
début
sûr.
Du fair play financier. Donc oui, évidemment que ça rentre en jeu. Après, autre indice, pour beaucoup de journalistes, donc là, il y a eu la réouverture des abonnements pour la phase retour. Et beaucoup de journalistes qui suivent Milan te disent, s'ils réouvrent la phase d'abonnement, c'est parce qu'il va y avoir un mercato important en janvier. Alors, il y a déjà eu Paqueta, 35 millions, ce qui est quand même assez important. Et puis encore, Paqueta, il lui faudra un temps d'adaptation, parce que c'est un Brésilien, c'est pas simple aussi d'arriver en Serie A, on le sait.
Bien sûr.
Donc, mais c'est vrai que le fait que Milan rouvre les abonnements pour la phase retour indique que peut-être il se prépare un mercato en janvier assez important, et dans tous les cas Milan devra intervenir parce que il y a beaucoup trop de blessés. Bonaventura est blessé depuis 8 mois, jusqu'à
la fin de la saison,
jusqu'à la fin de la saison évidemment, et ça va encore se prolonger un peu. Après, bon, bah, Romagnoli, Musacchio, Caldara, ils vont bien évidemment revenir un jour, mais c'est vrai que pour le moment, quand tu joues avec Abate en centrale contre Parme, c'est quand même compliqué, même s'il a fait un bon match. Donc c'est vrai, il y a ce contraste, et tu as raison, c'est vrai qu'il y a ce contraste entre Milan doit intervenir s'ils veulent arriver à la 4e place, mais le problème c'est qu'il y a évidemment ce couperet, cette épée de Damoclès au-dessus de toi avec l'UEFA. Donc je pense que Milan connaîtra sa sanction assez rapidement. De toute façon, ils veulent la connaître avant janvier, ce qui me paraît assez évident.
Ouais.
Parce que si tu dépenses 100 millions en janvier, que
et après derrière, on dit,
voilà, c'est un peu trop simple. Donc je pense qu'ils seront prévenus avant. Après, voilà, le fonds Elliott a l'air assez solide. Leonardo Maldini, je pense pas qu'ils iront dans un n'importe quoi comme on a pu connaître un peu finalement avec Fassione, Mirabelli et Lee. Voilà, où c'était finalement, voilà, c'était, quand tu vois les comptes, les projections qu'il y avait sur le mercato chinois, c'était quand même assez dramatique.
Assez fantaisiste.
Ah, ouais, c'était assez fantaisiste. Donc, voilà, je pense que maintenant il y aura une. Leonardo, je pense que tu l'as vu, il en parle souvent aussi, hein, du fair play financier, où il est conscient que voilà, Milan pourra pas faire des folies. Mais voilà, pour revenir plus précisément sur le cas Bakayoko, je pense que ce serait étudié quand même son rachat s'il continue comme ça. Après, voilà, je pense que 35 millions, ce sera évidemment un peu trop cher, mais un prix au rabais, ça peut être possible.
Et pour parler du match de Bakayoko contre Parme, on va quand même retenir cette phrase en conférence de presse d'après-match de Gattuso, qui a expliqué qu'il s'était retourné à un moment donné dans le match vers son adjoint, qui lui avait dit qu'il avait l'impression de voir le De Sailly de l'AC Milan. Alors, encore plus technique. Alors, pour rappel, pour les plus jeunes, hein, De Sailly était champion du monde avec l'équipe de France en 98 en défenseur central, mais quand il arrivait à Milan, il jouait en tant que numéro 6 devant la défense. Il jouait comme milieu de terrain, et donc, voilà, selon Gattuso, Bakayoko a un plus gros potentiel, en tout cas.
Et De Sailly avait marqué en finale contre le Barça.
Le fameux 4-0.
Ouais, tu te rappelles, cet enroulé magnifique. De Sailly était énorme. Hein. Alors moi, je l'ai pas connu parce que j'étais petit, mais de ce qu'on me dit, c'était quand même un joueur à Milan qui avait un volume de jeu impressionnant. Après, ils ont posé la question aussi à Maldini. Ils l'ont dit, alors, est-ce que vous pouvez comparer à De Sailly? Et Maldini a un peu tiqué, et il a dit, bon... Il a dit, moi, j'aime pas trop faire les comparaisons. Bakayoko, c'est un joueur. Marcel en est un autre. Mais voilà, il a dit, Maldini a aussi encensé. Hein. Il a dit, Bakayoko a fait un match énorme contre Parme. Et c'est plusieurs matchs pour le coup qu'il est bon. Donc après, les gens disent, oui, mais vous l'avez critiqué. Il dit, oui, mais on pouvait pas se projeter non plus sur l'avenir. On raconte des faits.
Il a été bah, même Gattuso n'y croyait pas trop. Hein, parce que dans la même déclaration d'après-match, il disait, pour moi, la plus grande surprise, c'est de voir Bakayoko à ce niveau en ce moment. On s'attendait pas à ce qu'il s'améliore aussi vite sur autant de points, donc même lui avait quand même des doutes sur la capacité de Bakayoko à réussir à progresser assez nettement au point de pouvoir s'imposer dans le milieu de terrain du Milan. Mais justement, derrière, une fois que les blessés vont revenir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart sur un schéma à 3 avec Bilia devant la défense? Est-ce qu'on continue avec un milieu à 2?
Dimanche, ils ont joué en 4-3-3. Bakayoko en sentinelle, c'était pas trop mal passé. Alors après, pas eu beaucoup d'offensives, en première mi-temps. Après, ils ont changé de schéma, ils sont passés en 4-2-3-1 avec Borini derrière ou à côté de Coutronné, ça dépend des moments. Mais c'est vrai que dans ce milieu à 3, on se rappelle à Naples, Bakayoko est entré, ça a été très compliqué parce qu'évidemment, c'est pas son poste. Mais c'est vrai que contre Parme, ça n'a pas été mauvais, mais tu as raison sur le fait que quand les titulaires vont revenir, il y a la question qui va se poser de l'air qui se respire à Milan et même chez les tifosi. Bah, Bakayoko, par exemple, a pris un coup sur la cheville contre Dulange à la fin et il y a eu un mouvement de panique en se disant, non, si Bakayoko joue pas dimanche, on va faire comment? Donc, tu vois, le football, ça va assez vite. Mais c'est vrai qu'il a totalement changé. Enfin, dans le volume de jeu, physiquement, il gagne tous ses duels contre Parme, mais il les monte en puissance. À la fin, c'était vraiment une digue au milieu de terrain, récupérer tous les ballons. Il a ce mouvement de corps où il est face à un, deux joueurs. Il essaie de casser les lignes avec des passes. Enfin, honnêtement, c'est vrai que c'est un joueur qui est transformé. D'ailleurs, le milieu de l'équipe de France est assez fourni. Donc, on va pas parler peut-être d'équipe de France.
Ça paraît compliqué pour lui encore.
Mais après, s'il continue comme ça, honnêtement, bon, pourquoi pas, mais
on verra s'il continue à franchir un cap mental.
Au vu de la conférence au vu de la concurrence qu'il y a, en équipe de France, ça paraît compliqué, mais on peut dire qu'il est vraiment en très 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 fort progrès.
On sait que c'est un joueur qui a aussi quelques limites sur le plan mental, puisqu'il travaille avec quelqu'un pour justement faire face à certains doutes et améliorer sa confiance en soi, donc on verra si il l'a fait par le passé.
Le seul bémol, c'est qu'il parle pas encore la langue.
Et c'est vrai. Après, ça a jamais empêché certains de s'imposer non plus. Hein,
non, mais il est arrivé il y a pas longtemps. Donc d'un côté, voilà. Mais Gattuso insiste encore sur ce fait-là. C'est vrai que Borini disait. J'écoute en interview où il disait, c'est vrai que c'est parfois compliqué de se faire comprendre. Et donc c'est vrai que voilà, je pense qu'il prend des cours. Donc il essaye d'apprendre la langue. Mais après, voilà, il est mieux à Milan. C'est quand même plaisir de le voir quand même à ce niveau-là. C'est vrai qu'au début, c'était quand même très compliqué. Donc on verra bien les prochains mois, mais ça se passe bien pour Bakayoko à Milan.
Alors, tu disais que tout allait très vite parfois dans le football, et c'est le cas de notre deuxième joueur, Nicolò Zaniolo, qui lui a été au cœur d'un transfert cet été, puisqu'on le rappelle, il faisait partie de l'opération entre la Roma et l'Inter, qui a envoyé Nainggolan de la Roma à l'Inter pour 38 millions d'euros secs. Et de l'autre côté, Davide Sonton et Nicolò Zaniolo sont arrivés à la Roma, et Nicolò Zaniolo est arrivé notamment pour 4,5 millions d'euros. Fait important, l'Inter a 15% du prochain transfert que fera la Roma sur en cas de vente de Zaniolo. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors Zaniolo, il est arrivé et jusqu'au dernier moment, Monchi et les dirigeants de la Roma ont hésité à le prêter, notamment en Serie A. C'était plutôt destiné à un prêt en Serie A, parce qu'en fait le milieu de terrain et notamment le secteur offensif est assez fourni à la Roma, et notamment dans un secteur de jeu, l'axe, puisque c'est un joueur d'axe, c'est un trequartista Zaniolo, où il y a Javier Pastore à la Roma et où en plus depuis s'est imposé Lorenzo Pellegrini, un peu contre toute attente, parce que c'est plutôt une mezzala qui lui s'est imposé dans le cœur du milieu de terrain de la Roma. Finalement, il est resté. Ça tombe plutôt bien, parce qu'avec les nombreuses blessures à la Roma, s'il n'y avait pas eu Zaniolo, ils auraient été obligés sans doute de faire jouer un jeune de la Primavera ces derniers matchs. Maintenant, alors, pour décrire rapidement, tu veux décrire rapidement ce que tu as vu de Zaniolo contre l'Inter ce week-end?
On peut dire qu'on a vu un joueur qui promet beaucoup, déjà. On peut même dire que c'était le meilleur. Moi, je pense que ça a été le meilleur de la Roma. La Gazzetta le pense aussi, parce qu'elle a pris une très bonne note et elle a été élue meilleur joueur de la Roma. Mais c'est vrai que dans le volume de jeu, dans ce qu'il apporte même devant, on l'a vu beaucoup se projeter. Il prend cette fameuse faute non sifflée, qui aurait dû plutôt coûter le penalty à l'Inter. Mais c'est vrai qu'il a été très bon. Alors la question est, quel poste pour lui? Alors moi, je pense, alors je sais pas si t'es d'accord, peut-être plus trequartiste, le fameux numéro 10 derrière, parce qu'on l'a vu beaucoup hier dans cette zone. Il a beaucoup joué à l'Inter dans ses prises de balles. J'ai encore l'image d'Ambrosio qui arrive en retard sur lui. Il a cette vista. Honnêtement, c'est un joueur qui est très surprenant, parce que on l'avait déjà vu à l'Euro U19 avec l'Italie. Tu te souviens, il avait déjà été bon. Avec la Primavera de l'Inter, il avait été aussi bon. Et c'est vrai que là, faut encore passer à cap, parce que quand tu passes titulaire à la Roma, alors certes, c'est dû aux blessures de. Alors, t'as beaucoup, t'as Pastore, t'en as quand même plusieurs qui sont blessés.
Pellegrini, De Rossi, le terrain, c'est assez dessiné.
Je sais que ce sujet te tient à cœur.
Oui, effectivement. Donc, ouais. Le décompte est assez douloureux. Hein. Fadio, c'est quand même la 36e blessure depuis le début de la saison. Hein.
36.
Oui. Ouais.
Quand même. Donc, et Fadio, c'était hier, c'est ça, c'est ouais. Hier, juste avant, parce qu'il est annoncé titulaire en plus, Fadio.
Oui, et il est fini en tribune. Ouais.
D'accord. Et du coup, non, mais pour revenir à Zaniolo, c'est vrai que j'ai regardé les matchs sur Sky, c'est vrai que même les commentateurs ont été pas bluffés parce qu'on commence à le connaître, mais c'est vrai que dans ce qu'il a apporté, dans l'impact et dans le visage qu'il a à la Roma, cette Roma un peu jeune, assez agressive, et hier, voilà, qui a vraiment mis tout son cœur pour arracher, on va dire, un match nul contre l'Inter, bah lui, il en est pas fait exemple. Il est jeune, il avait envie, et d'ailleurs, il a pris quasiment une standing ovation quand il est sorti.
Bien sûr.
Parce que tous les gens étaient debout à Olympico. Donc, c'est assez, voilà, c'est assez exceptionnel pour un joueur de son âge. Mais c'est vrai que c'était, voilà, hier, il a été vraiment impressionnant.
Ce que j'ai beaucoup aimé, tu as parlé de ses prises de balle, et c'est vrai, son premier contact avec le ballon est très très bon, ce qui lui permet soit de se retourner assez rapidement, soit de remiser en une touche de balle vers un partenaire. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ses courses balle au pied, et notamment la résistance physique. C'est un joueur qui est assez grand. Et qui peut paraître un peu frêle comme ça, mais en fait dans le duel il est quand même assez costaud. Il s'est pas beaucoup fait bouger, je trouve, sur un match comme ça. Il a une bonne qualité de dribble, et évidemment pour ce poste-là c'est important parce qu'on est face au jeu, on est amené à être dans la zone du numéro 6 adverse ou d'un double pivot, donc il faut aussi savoir éliminer son adversaire d'un geste technique et ne pas tout miser simplement sur sa capacité à faire la différence sur une accélération, sur en vitesse, donc ça c'est assez intéressant. On évite de parler de tout ce qui est personnalité, etc., parce que même s'il en a montré un petit peu, ça reste encore léger, mais bon, il a 19 ans, il a même pas fait 10 matchs en Serie A, il a même commencé cette saison, son premier match en tant que professionnel, c'était sur le pouce du Real, donc c'est dire aussi si Di Francesco a confiance en lui. Ça c'est un point qui est quand même très important pour un jeune joueur. Et puis alors, En me baladant un peu, en regardant un peu les réactions à des articles, à des coupures de presse, sur les réseaux sociaux, etc., je trouve les tifosi de l'Inter un peu hâtifs dans leur jugement. Voilà, il y en a beaucoup qui commencent à dire « Oui, l'Inter aurait mieux fait de garder Zaniolo et de pas prendre Nainggolan, parce qu'effectivement, Nainggolan est quand même assez régulièrement blessé depuis le début de la saison, qu'il a quelques difficultés, on sent qu'il est pas en forme physique, etc. Oui. » Bon, attention, Zaniolo a fait 5 matchs, 5 apparitions en Serie A, 2 en Ligue des Champions, il faut se calmer aussi. Nainggolan, il est pas devenu nul du jour au lendemain.
Tu sais comment l'Italie, hein.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention en disant, voilà, Zaniolo est encore très loin du niveau que peut avoir Nainggolan, et c'est évidemment logique. Il n'a pas son expérience, il n'a pas la régularité, il n'a pas eu l'occasion de beaucoup s'exprimer pour le moment, donc il faut un petit peu se calmer. Et puis ce que je voulais rajouter pour finir sur Zaniolo, c'est aussi la déclaration de Totti à la fin du match, qui expliquait il joue déjà comme un vétéran, donc comme un joueur expérimenté. Il joue avec facilité, vitesse, il est explosif, il est en train de démontrer tout son talent. Et il rajoute après en rigolant, je le dis pas trop fort, parce que si jamais ça s'inverse, si jamais les choses changent, on dira que ce sera de ma faute et que je lui ai monté la tête, en gros. Mais voilà, effectivement, la Roma a toujours eu une relation particulière avec les numéros 10 entre guillemets, et les joueurs beau, soyeux, avec une bonne qualité technique, etc. On verra si Zaniolo fait partie de ces joueurs-là. Pour l'instant, ce qu'il montre est assez intéressant. Moi, il y a la question quand même qui va revenir. Alors, sauf s'il y a toujours autant de blessés, hein, parce que ça, c'est quand même pas gagné cette saison, a priori. Mais une fois que la Pastore est rentrée en fin de match, donc il semble sur la voie du retour.
Oui.
Pour le moment, Perotti est également revenu, mais c'est plus un joueur de côté.
Qu'est-ce que t'as pensé de Perotti? 5 secondes sur Perotti, moi je l'ai trouvé. Alors, c'est bien qu'il soit revenu, mais je l'ai trouvé quand même. Bon, c'est normal, hein, mais il se trouve vraiment au ralenti, quoi.
Ah, mais il est totalement hors de forme. Ouais, totalement hors de forme. Il a fait un match, c'était à Bologne, il a joué 90 minutes quasiment, et il avait fini sur les rotules. C'est son seul match de la saison, donc.
Il a une blessure, d'accord, mais c'est vrai qu'hier il était même pas présentable, tu vois ce que je veux dire.
Mais c'était en fait, vraiment... je pense qu'il l'a fait rentrer aussi pour lui donner du temps de jeu, parce que si tu le fais jamais rentrer, il retrouvera jamais le rythme, hein, mais c'est.
Il est au ralenti, hein.
Ah, mais c'est très compliqué, là, c'était.
Oh là là.
Il a rien réussi, il a pas fait une seule course, mais bon.
Ah, alors, je sais pas si tu te souviens de la course, alors je sais plus, il y a quel joueur de l'Inter, sur un contre à la fin, oui. Perotti, le course.
Je me demande si c'est pas sur Joao Mario, mais je suis pas sûr, certain.
Ah, peut-être, oui. Mais, alors, il essaie de le courser, mais c'est. Oh, alors qu'il était frais, hein, il était rentré depuis 5 minutes. Et c'est vrai que ça m'a assez, bon, évidemment, hein, je prends en compte le fait qu'il était blessé, qu'il revient, mais c'est vrai que dans un match aussi, qui avait beaucoup d'intensité,
oui.
Où ça n'arrêtait pas une seconde, c'est vrai que le voir rentrer comme ça, et lui, voilà, qui a un jeu beaucoup basé sur la vitesse et les premiers pas, c'est vrai que, bon, ça me faisait bizarre de le voir aussi lent. Après, je pense que c'est une question de temps, mais c'est vrai qu'il a paru complètement hors de forme.
Donc on verra pour le prochain match à Cagliari, il y a risque ce que décide Di Francesco, puisque a priori Pellegrini sera peut-être disponible. Pastore est de retour, Zaniolo est là, qui va être...
De Rossi, on est où?
Non, De Rossi sera pas là a priori. Ah. Le problème c'est que là ils sont passés à un milieu à deux, c'était assez valable tant que tu as De Rossi et Nzonzi. Là, Nzonzi, Cristante, je trouve ça quand même un peu compliqué parce que Cristante et Nzonzi sont deux joueurs qui ont tendance à beaucoup dézonner. Donc hier, notamment fin de match, hein, ils ont pris des vagues, les quatre défenseurs, parce que il y avait plus personne au milieu de terrain parce que la Roma essayait de marquer et donc les deux dézonnaient beaucoup. Après ça, est-ce que si tu fais un retour à trois, mais à ce moment-là, ça veut dire que soit tu choisis entre De Rossi et Nzonzi, soit tu mets Nzonzi en mezza, là, qui n'est pas vraiment son poste non plus, donc c'est assez délicat d'imaginer pour l'instant la bonne formule. A priori, quand Pellegrini reviendra, c'est quand même lui qui devrait reprendre ce poste-là, parce que c'est celui qui a apporté le plus de certitude pour le moment. Donc on verra si Zaniolo a simplement profité des blessures pour se montrer un petit peu, ou si le fait de s'être montré lui offre des perspectives de temps de jeu
après,
un peu plus importantes.
Après, pour le coup, c'est une bonne nouvelle aussi, même pour l'Italie.
Oui.
Alors certes, c'est hâtif, il n'y a pas de, on va pas.
Ah, il a même été appelé alors qu'il n'a pas fait un seul match professionnel.
Exactement. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est vrai que ça fait aussi plaisir de voir un jeune Italien. On les réclame assez souvent. Ça fait plaisir de voir un jeune Italien en pleine émergence. Et pour le coup, hier, il m'a vraiment impressionné. Alors, je vais pas faire de conclusion un peu, voilà, trop vite. Mais c'est vrai qu'hier, c'est quasiment le meilleur des deux équipes. Donc honnêtement,
c'était déjà le cas côté romain. Hein, c'était un peu parmi les 2-3 meilleurs face au Real aussi.
Oui.
Donc quand tu réussis à être bon face à des gros comme ça,
c'est bien la personnalité du gamin.
Voilà, c'est un bon début. Ouais. Autre joueur qui s'est fait remarquer ce week-end, autre joueur qui était parti pour commencer aussi sur le banc, parce que là la concurrence est aussi très très forte dans son club. C'est Rodrigo Betancourt, milieu de terrain uruguayen. On rappelle, hein, concurrence au milieu de terrain à la Juve, on peut noter Pjanic, Matuidi, Emre Can, on a Sami Khedira, et on a même Bernardeschi qui a un petit peu joué aussi en mezzala cette saison. Je crois que j'ai fait à peu près le tour sans oublier personne. Mais voilà, il n'était pas parti quand même pour être titulaire. Et puis, avec les blessures là aussi, il a su profiter des blessures de Khedira, d'Emre Can, etc. Il s'est imposé. J'ai lu tout à l'heure quand même, c'était son 10e match consécutif avec les Bianconeri. Donc c'est un témoin aussi de son importance aujourd'hui sur dans ce groupe. Et puis, ce qu'on avait noté, je sais pas si tu te souviens... En début de saison, on disait que face à certaines équipes qui étaient un peu regroupées, le coup de mettre et Matuidi et Khedira, c'était un peu lourdingue dans le sens, c'est pas des joueurs hyper hyper techniques, c'est plus des joueurs qui prennent les espaces, etc. Et puis plus dans un registre pas défensif, mais qui apporte moins quand même offensivement à l'équipe. Et on disait avec le seul Pjanic pour un peu essayer de casser des lignes avec les passes. De faire déjouer tactiquement les adversaires, etc. C'était un peu léger. Et là, l'association, donc Pjanic, Betancourt qui du coup joue plutôt en mezzala à ses côtés, en relayeur, c'est quand même assez intéressant.
Et c'est vrai, mais voilà, après, il y a aussi des progrès à faire. Moi, je trouve des fois qu'il garde un peu trop le ballon.
Oui.
Voilà, j'aimerais bien qu'il le lâche un peu plus vite pour donner un peu de fluidité à l'action. Mais c'est vrai que c'est aussi, on peut dire que c'est une. Voilà, c'est la surprise aussi du début de saison de la Juve, où comme tu dis, il a enchaîné beaucoup de matchs, il en a été à 10, 11,
ouais,
tu m'as dit.
10, ouais.
Donc voilà, c'est pas rien. Alors certes, Emre Can a été blessé, il est toujours, bon, il revient à reprendre l'entraînement il y a pas longtemps, donc ouais, il va se remettre aussi en jambes, Mais c'est vrai, quand tu peux compter sur un, on va dire un remplaçant, puisqu'on est un peu dans la catégorie des remplaçants qui deviennent titulaires, comme Bettencourt, je pense que la Juve, voilà, on savait qu'il y avait un banc, mais alors avec Bettencourt, c'est plus un banc, c'est mieux. Mais c'est vrai que voilà, il fait jouer les autres, il a beaucoup de capacités, il est très actif, il se projette beaucoup, le but qu'il met à Florence, voilà, il se projette, et dans un système comme ça, c'est hyper important. On sait qu'Allegri adore ses milieux de terrain.
Mais justement, il le faisait pas assez jusque-là. Et là, oui. Allegri a noté à la fin du match en disant, voilà, c'est le type d'action aussi qu'il doit faire.
Exactement.
Parce que c'est vrai que c'est un joueur qui en est capable. Hein. Il a les capacités, notamment techniques, pour avancer balle au pied, quoi.
Exactement. Il est très technique. Et puis, alors, il faudrait qu'il gagne aussi un peu en physique, peut-être dans l'impact. Où c'est vrai que parfois, il perd des duels. Moi, je trouve aussi des parfois, il a beaucoup de déchets. Mais en soi, voilà, il va petit à petit épurer son jeu. Mais c'est vrai que contre la Fiorentina, ça a été l'un des meilleurs. Il est souvent bon. Ses derniers matchs étaient très, très bons même. Donc, c'est vrai qu'il s'impose comme titulaire. Alors, quand même, Richard va revenir. Pareil que Zaniolo ou Bakayoko. Quand les titulaires vont revenir, quid de ces trois joueurs. Mais c'est vrai que Bettencourt s'impose et ça va être très compliqué pour Allegri de l'enlever. Surtout que, voilà, en plus, il marque. Il a ouvert le score samedi dans un match très compliqué face à Fiorentina, enfin, qui devait être très compliqué. Et qui,
ils se le sont rendus assez facile au final.
Exactement, ils se sont rendus assez facile. Donc, mais voilà, comme tu dis, on sait qu'Allegri adore ces joueurs qui se projettent vers l'avant, c'est le terrain qui apporte de la supériorité, qui crée. Et comme tu dis, Bettencourt a toutes les capacités. Donc, c'est vrai.
Et surtout que les milieux de terrain de la Juve ont une carte à jouer parce que des joueurs comme Dybala ou comme Mandzukic peuvent être des points d'appui justement pour ces pénétrations depuis le milieu de terrain, etc. Donc,
ouais. D'ailleurs, le but de Bettencourt, je crois que c'est un 1-2 avec Dybala. Hein,
exactement. Si il y a eu un autre 1-2 après, j'arrive plus à me souvenir malheureusement avec qui c'était, mais même type d'action. Et voilà, c'est des joueurs qui sont capables de remettre le ballon en une touche, de déstabiliser une défense, etc. Donc il faudrait qu'ils réussissent. L'axe de progression le plus important, je trouve, chez Bettencourt, c'est que aujourd'hui, parfois, il essaye d'être un peu trop un Pjanic bis, avec encore une qualité technique un peu inférieure au Bosnien quand même, qui lui, je trouve, est d'une qualité très très supérieure techniquement. Et j'aimerais, enfin, je trouve que ça serait intéressant que Bettencourt essaye d'avoir un peu plus d'Emre Can en lui. Ce qu'on disait tout à l'heure, être un peu plus costaud dans les duels.
Toujours un mélange.
Ouais, exactement. Je trouve que, c'est-à-dire aujourd'hui, sur certaines phases, et ce que disait Allegri, si t'as Pjanic qui garde déjà aussi parfois un peu le ballon, qui l'accélère pas toujours, et puis si t'as à côté de lui un Bettencourt qui fait un peu pareil, bah tu vas pas assez justement accélérer le jeu. Et je trouve que voilà, se projeter un peu plus, avancer balle au pied, ne pas toujours faire vivre le ballon, etc. Je trouve que ça apporterait un élément supplémentaire à ce milieu, parce que Khedira n'en est pas capable, Emre Can assez peu, donc ça serait un autre profil qui serait intéressant dans ce milieu de terrain de la Juve. Et c'est vraiment c'est pas dans l'idée de la Serie A, parce qu'on sait, voilà, que la marge, elle est telle que même en jouant en marchant, il pourrait s'imposer. Mais c'est vraiment dans le profil des équipes que peut rencontrer la Juve à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Où parfois, il faudra plutôt des milieux de terrain bagarreurs, à la Emre Can, à la Matuidi. Parfois, il faudra des mecs qui savent prendre les espaces, comme Matuidi aussi, ou comme Khedira. Et parfois, il faudra des mecs qui sont capables d'accélérer le jeu face à des défenses regroupées, etc. Et là, ce sera plutôt le rôle de Bettencourt. Donc, oui, évidemment, il a encore des progrès à faire. Il est jeune, donc il a encore beaucoup de choses. Et puis, l'exigence à la Juve, c'est pas la même qu'à la Roma, qu'à Naples, qu'à l'Inter et qu'à Milan aujourd'hui. Hein. Donc, évidemment que tout le monde est très exigeant avec lui. Et c'est aussi parce qu'il a les moyens de devenir un très grand joueur. Et c'est ce que Allegri disait aussi à la fin de la rencontre, où il disait qu'il fallait plus lâcher le ballon, sans toujours vouloir l'avoir au pied et multiplier les touches de balle, etc. Donc on verra si Jay lui avait demandé d'être plus décisif, de marquer plus, se projeter plus, il l'a fait ce week-end. On verra s'il réussit à comprendre et à entendre en tout cas le message de son entraîneur. Rien d'autre à rajouter sur notre petit milieu de terrain uruguayen, Guillaume, on peut passer au sujet suivant.
Dis-moi. Allez. Si t'écoutes, tu es le patron.
Ivan Perisic. C'est toi qui m'as lancé ce petit sujet tout à l'heure quand on a préparé.
Je l'ai lancé parce que
le podcast.
J'ai vu les critiques pleuvoir sur Perisic hier par les tifosi de l'Inter. Après, on peut les comprendre dans le sens où c'est très compliqué. On a 2 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de Serie A, donc c'est quand même pas grand-chose. Il arrive de plusieurs mois assez difficiles. On a l'impression qu'il a un peu de mal aussi à récupérer sa Coupe du Monde avec la Croatie. Où il avait été d'ailleurs marqué en finale. Et c'est vrai que dans les statistiques, on peut souligner aussi que Lautaro et Martinez et Romario, par exemple, sont impliqués sur 3 buts en 3 fois moins de temps de jeu.
Donc c'est un but de moins que Perisic, mais avec 3 fois moins de temps de jeu. Donc ce qui est quand même assez notable comme différence.
Exactement. Et surtout, on ne le retrouve pas dans les courses, dans la finition. Hier, il a raté encore un but. On le retrouve pas dans le dynamisme. Il a l'air complètement déconnecté de la phase offensive de l'Inter. Il est détaché. Il a l'air pas dedans. Je le trouve même dans l'expression physique, dans ce qu'il dégage. Je le trouve vraiment pas concerné. Et je pense que ça lui suscite aussi que les tifosi de l'Inter se disent, mais pourquoi elle est limitée de jouer tout le temps, alors que d'autres joueurs, par exemple, comme Keita, alors, hier, ils ont beaucoup inversé leur positionnement, je pense que tu l'as vu aussi,
oui.
Où ils échangeaient beaucoup de postes. Mais c'est vrai que, Perisic, ça commence à devenir compliqué, honnêtement, je pense que Spalletti va, ou devoir le mettre un jour sur le banc aussi pour le faire réagir, pour lui dire que, ouais, il est pas immunisé et que, au titre que les autres joueurs, il doit aussi prouver qu'il mérite son poste. Ou alors, c'est vrai que Perisic va rester dans sa zone de confort et puis il va pas forcément s'en mettre en question.
Justement, je me demande si c'est vraiment une zone de confort ou si c'est vraiment qu'il cale physiquement. On sait que c'est un joueur qui a un atout indéniable et peut-être son plus gros atout d'un point de vue footballistique, c'est son activité. C'est un joueur qui fait 11-12 km par match, qui est sans arrêt en train de récupérer le ballon en bas, de combiner plus haut, de déborder, de centrer, de venir couvrir son latéral, etc., etc. Donc il a un très gros abattage en termes de travail, à la fois sur le plan offensif, mais aussi sur le plan défensif. Je pense que c'est aussi ce qui plaît à Spalletti, parce que c'est pas du tout ce que fait Keita Baldé, par exemple. Donc quand tu alignes un joueur comme Keita Baldé, qui lui rushing plus dans le travail défensif, c'est bien compensé avec un autre joueur de l'autre côté pour fermer les espaces, qui lui est capable d'encaisser beaucoup de courses, de mouvements, d'accélération, etc.
Keita Baldé qui s'est débloqué d'ailleurs, hein, ça y est, il a encore marqué hier, comme un déclic, ça y est, on l'avait dit d'ailleurs la semaine dernière, tu te rappelles, il est vraiment rentré dans le...
Après le match contre Frosinone.
Exactement.
Et donc du coup, je pense que c'est ça qui plaît à Spalletti, mais le souci, c'est que si tu l'alignes à chaque fois, parce que tu estimes que cet équilibre est très important et qu'il n'y a que lui qui peut quasiment te l'apporter sur les postes offensifs, tu risques de le cramer encore plus qu'il ne semble l'être, parce qu'on n'a pas forcément les données que peut avoir le staff de l'Inter sur le volume de course, etc., etc. On les a pas, mais il semble en tout cas assez épuisé. Alors sans doute physiquement, peut-être aussi un peu émotionnellement après la finale perdue de la Croatie. On sait qu'il y a plusieurs joueurs, et notamment Luka Modric, qui a dit que c'était assez difficile quand même d'atterrir en début de saison après cette finale de Coupe du Monde.
Oui.
Et de s'en mettre dans le travail quotidien en club, etc. Donc est-ce que c'est son cas ou pas? Et puis le troisième point, c'est est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude, parce qu'il a donné une interview qui était assez
sur la première ligue aussi,
assez pas forcément étonnante, mais qui a beaucoup dérangé les tifosi interistes à 442, le magazine anglais, en expliquant sa déclaration, c'est quand on a parlé de son avenir, etc. Il a dit depuis le début de ma carrière, j'ai toujours espéré jouer dans les plus grands clubs, dans le plus grand nombre de grands championnats possibles, dans les 4 grands championnats européens plus la France. J'ai toujours cette envie d'aller dans d'autres pays, surtout en Angleterre, en Espagne. J'espère que les fans de l'Inter, comprennent mon point de vue. J'aime les challenges et c'est ça qui fait ma force. Donc voilà, on peut pas dire qu'il soit forcément non plus hyper stable, on va dire, d'un point de vue enfin lié ouais. à son avenir notamment, en se disant j'aimerais bien aller en Angleterre. On sait qu'il a failli signer à Manchester United avant l'arrivée de Spalletti en 2017.
Exactement, il était très proche.
Voilà, que Spalletti l'a convaincu de rester, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ce début de saison.
Ouais. Tu sais, on a compliqué. Un truc qui a moins faim. Ouais. On a qui a moins envie de manger le ballon, manger le terrain. Avant, on se rappelle de ces longues courses sur le côté gauche. Voilà, ou même le latéral parfois débordait, il y avait des belles combinaisons avec Icardi. Combien de fois on a parlé de la connexion Icardi-Perisic? Et c'est vrai que cette année, d'ailleurs, Icardi est moins fourni en ballon parce que Perisic aussi est moins bien.
Mais la question, est-ce que c'est une question de volonté ou une question de capacité?
Moi, je pense que c'est aussi psychologique, hein. Au-delà du physique, je pense. Mais je te dis, dans son attitude et dans ce qu'il dégage, j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas dedans depuis qu'il est revenu cette saison. Il n'est pas. Et c'est vrai que quand tu as des joueurs comme Politano, comme Keita ou Lautaro, alors qu'il joue plus axial, certes. Mais c'est vrai que c'est des joueurs quand ils rentrent. Enfin, Politano hier est quand même bien rentré. Alors il a fait des prouesses, mais il est bien rentré dans l'envie. Je pense que Politano, on pourrait rien lui reprocher. Et c'est vrai que Perisic. Alors physiquement aussi, il a pas l'air non plus, on va dire, en top forme. Mais c'est vrai, je le sens complètement ailleurs et pas forcément engagé dans les contrastes, dans les duels. Il s'énerve facilement. Donc c'est vrai que c'est dommage aussi que Spalletti lui accorde tout le temps du crédit, alors que malheureusement du crédit il en perd. Donc je pense qu'aussi peut-être qu'un passage sur le banc, ça pourrait aussi le réveiller et voilà, lui faire comprendre qu'il n'est pas immunisé, malgré le fait que ce soit un excellent joueur. Évidemment, on le sait, parce qu'on le connaît. Mais c'est vrai, comme tu as dit aussi, voilà, il était proche de Manchester, on le sait, il l'avoue. Voilà, il exclut pas d'y aller. Donc voilà, je te dis, j'ai l'impression que même dans la tête, quand tu lâches ce genre de déclaration, bon, tu peux te dire
jamais
aussi
très
que,
bon.
Voilà, exactement, tu te dis, bon, il n'est pas non plus totalement concentré sur l'Inter. Donc, alors que cette année, pourtant, il y a eu des champions et plusieurs échéances à côté de Barça, Tottenham, c'est quand même un beau groupe. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'est pas concerné par l'Inter pour le moment.
Et pour conclure donc sur Perisic, il y a un des sites majeurs de fans de l'Inter, alors c'est un site italien, hein, qui a fait un sondage ce matin parce que voilà, comme nous, ils ont vu que Perisic était en difficulté contre la Roma et ça venait aussi d'autres matchs où il n'avait pas été particulièrement tranchant. Ce site a fait un sondage en demandant aux internautes de voter, est-ce que Perisic doit aller sur le banc? Alors ils ont même pas précisé les raisons, hein, pour se reposer, pour blablabla. Ils ont juste dit Ivan Perisic doit-il faire quelques matchs sur le banc, etc. Et il y a eu 2000 votants à peu près, et quand même 91% de tifosi interistes qui ont dit oui. Donc c'est vrai que le plébiscite est assez marqué, mais ça démontre le fait que voilà, les fans de l'Inter aimeraient bien aussi voir d'autres choses et d'autres joueurs qui sont aujourd'hui, en tout cas, à l'instant T, beaucoup plus efficaces et décisifs pour l'Inter. C'est Keita Balde, c'est Politano, ça peut être Lautaro Martinez dans un autre rôle, ou alors en changeant de schéma. Mais en tout cas, il y a une possibilité pour que Perisic, lors des prochains matchs, on sait que le prochain de l'Inter, c'est pas n'importe quoi, Guillaume. Je sais pas si t'as déjà noté ce match sur ton petit agenda.
Vendredi soir.
Voilà, vendredi soir.
Tu crois pas que j'irai mon vendredi soir pour voir ces magnifiques Juve Inter.
Exactement.
Évidemment.
Donc là, il faut des joueurs qui sont clairement à 100% à la fois dans la tête, à la fois aussi physiquement, parce qu'en face ça va quand même très vite. Donc on verra si Spalletti décide de laisser Perisic ou de mettre un autre joueur sur le flanc. On va passer à notre pêle-mêle footballistique parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dans ce pêle-mêle ce week-end.
Un bon dolce,
sachant qu'on enregistre donc lundi en fin de journée et que Naples n'a pas encore joué. Naples joue donc ce lundi soir contre l'Atalanta. Ça risque d'être d'ailleurs un match très intéressant.
Exactement.
Avec deux équipes en forme et deux équipes qui marquent beaucoup de buts, notamment. Tu veux commencer par la déclat du week-end, peut-être, dans notre Dolce?
Oui, parce que je sais que tu te tiens à cœur.
Non, même pas.
Tient à cœur.
Ah oui, c'est
non,
un sujet qui me tient à cœur. Plus que la déclaration elle-même, oui.
Les auditeurs doivent le savoir maintenant. C'est vrai que tu. Est-ce que je peux dire que tu es un fervent opposant à la VAR?
Tu peux totalement l'affirmer.
Et donc, Totti, après le match hier, donc après ce. Bon. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vrai qu'il y a un penalty. Alors moi, quand je l'ai revu, honnêtement, j'avais aucun doute sur le fait que Rocky aille voir l'action ralentie, enfin plutôt voilà, il revoit l'action à la vidéo et siffle le pénalty, ça me semble assez évident parce que pour le coup le contact est net.
Ouais.
Donc pour le coup tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a pénalty, sauf que Rocky l'a pas sifflé. Alors c'est un non pénalty du coup sur le 0-0 juste avant le but de l'Inter, 30 secondes avant.
Oui.
Et donc Totti a dit après le match très remonté, il a dit tout le monde l'a vu, donc en parlant du pénalty, on se demande comment les arbitres de la VAR ont fait pour la rater, c'est honteux. Pourquoi ne pas les appeler, leur demander une explication? Peut-être que Fabri, c'était l'arbitre qui était à la séance vidéo, regarde un autre match, on ne peut pas continuer comme ça. On fait une réunion à Milan, donc ils étaient réunis avec les arbitres, et ensuite on voit les actions comme ça. Donc c'est vrai que Totti était assez énervé. Je vais te laisser rebondir sur ce sujet. Voilà.
Non, mais ça mériterait un sujet à part entière. Et bon, je suis pas sûr qu'on le fera parce que dans l'histoire des opposants à la VAR et des pro-VAR entre guillemets, le dialogue est quasiment impossible parce que c'est des positions qui peuvent pas se rapprocher pour des fondements idéologiques ou voilà, plus que des cas pratiques. Mais quand même. Hier sur les matchs, notamment j'ai vu Milan-Parme aussi, tu l'as vu aussi, il y a encore eu des scènes de 5 minutes pour faire des appels à la VAR, on sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, il y a encore des mains dans la surface qui sont sifflées ou pas sifflées, on comprend toujours pas pourquoi. Par exemple, pourquoi la main de Biraghi, je crois, de mémoire, lors de Fiorentina-Juve n'est pas sifflée, alors que la main du défenseur, alors j'ai oublié son nom, de Parme,
ouais.
Est sifflée, sachant que la main de Biraghi est, on va appeler ça décollée du corps, entre guillemets, et augmente la surface du joueur, sachant que celui de Parme, les mains sont devant lui, donc si ça touche pas la main, ça touche, je sais pas, la poitrine ou le ventre...
Alors, le pénalty de Biraghi, c'est certain, c'est parce que le ballon touche le dos avant,
oui.
Il touche une autre partie du corps, et oui. Donc voilà, la main dans ce cas-là compte pas. Alors, celui de Parme, alors les gens vont dire oui, faire pas qu'ils éminent, non, mais au-delà de ça, pour moi, honnêtement, alors moi, personne ne l'a vu en direct, je suis d'accord,
bien
personne
sûr.
Ne l'a vu, mais pour moi, tu vois, alors, pour moi, il y a pénalty dans le sens où, enfin, j'ai même pas eu de discussion, c'est pour moi, ça me semble assez évident. Alors, moi, cette notion, alors je suis un peu comme toi, cette notion de main volontaire, qui veut faire main dans la surface?
Alors, oui, personne.
Quel défenseur?
Oui.
Voilà. Alors, sauf Suarez, par exemple, de Ghana, où là, oui, il y a main volontaire, mais est-ce que tu connais un défenseur qui va se dire, tiens, je vais faire main pour accorder un penalty? Évidemment que non. Donc, évidemment, pour le coup, je suis d'accord, il faut un règlement clair sur la main, parce que soit on siffle toutes les mains, qui sont décollées du corps, ou soit on siffle pas, parce que c'est vrai que c'est compliqué à suivre.
Mais c'est pour ça qu'en fait la VAR n'ajoute rien pour moi, c'est que de toute façon c'est une interprétation d'arbitre derrière. Donc que ce soit une interprétation liée à une vidéo ou pas liée à une vidéo, c'est exactement la même chose. Peut-être que l'arbitre de... je sais plus quel arbitre c'était lors de Milan-Parme, l'avait vu cette main, il l'a pas sifflé. Après on lui a dit faut venir voir la main. Mais au final, c'est un arbitre qui juge cette main-là comme coûtant un pénalty, entre guillemets, à Parme. Tu la remontres à 50 personnes, t'en as 25 qui vont te dire qu'il y a pénalty et 25 qui vont te dire qu'il n'y a pas pénalty. Par exemple, pour moi, sur cette action-là, il n'y a pas pénalty. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, la VAR ne change rien aux contestations, à l'énervement général, aux réactions épidermiques d'après-match. Parce que là, pour revenir à Totti, on l'a vu, hein, la Roma, ils ont fait un espèce de silencio stampa. Donc, en gros, on parle pas à la presse, on n'envoie que Totti au front. Déjà, c'est un marqueur hein, d'envoyer ta légende au front, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Parce que c'est pas lui qui prend la parole, c'est plutôt Monchi, c'est plutôt Baldissoni, c'est plutôt les joueurs, l'entraîneur. Là, ils ont quand même envoyé Totti en disant c'est lui qui va représenter le club aujourd'hui devant les médias.
Et ils savent que sa voix porte.
Exactement. Donc ça, c'est quand même un fait marquant. Mais c'est pour ça, en fait, rien ne change. Il y a toujours autant de... Moi, je trouve qu'il y a toujours autant de polémiques. Il y a toujours autant d'actions litigieuses. Il y a toujours... Donc, pour moi, c'est pour ça que ça... Et ces deux rencontres-là que j'ai vues ce dimanche, bah, pour moi, me confortent dans mon idée que...
Calme-toi.
Je respire. Monte en pression, je vais faire de l'hypertension. mais voilà, donc pour moi le, en fait, j'aime pas quand Totti, c'est un joueur que j'adore évidemment, mais ce genre de déclaration, je suis pas très fan parce que voilà, revenir sur l'arbitrage, etc. C'est, mais en fait, c'est juste que vidéo ou pas vidéo, il y a toujours les mêmes réactions d'après match. On l'a vu avec Simone Inzaghi, on l'a vu donc là avec Francesco Totti, on l'a vu avec Spalletti qui s'est plaint cette saison. On l'a vu mille fois. Ils sont tous pleins plus ou moins de l'arbitrage, etc. On n'est pas arbitré comme les autres. Quand telle équipe, on se fait à chaque fois avoir. Là, il y avait penalty, là, il y avait pas penalty. Pourquoi la VAR est pas intervenue?
Après, tu sais, la VAR est aussi là pour éviter les grosses erreurs. Par exemple, si tu prends le but de Romagnoli pendant l'Udinese Milan à la 97e, qui est annulé pour hors-jeu, alors qu'il n'y est pas de 2 mètres.
Bien sûr.
Donc, tu vois, Colina, je me rappelle, avait expliqué, elle a dit, mais pourquoi la VAR? Elle avait dit, pour éviter les grosses erreurs. Alors après, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait moins de polémique avec la VAR, parce que de toute façon, l'Italie est un pays polémique, mais on voit aussi en France où ça fait aussi polémique. Donc, je m'attendais aussi, évidemment, à des débats. Mais c'est vrai que c'est aussi pour éviter les grosses erreurs. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on peut dire que la Ligue des Champions, l'UEFA aujourd'hui a annoncé que la VAR serait là dès les huitièmes de finale. Et ils ont rajouté à la fin du communiqué en l'honneur de Johan Crochet.
Ah, ça fait plaisir quand même. Hein.
C'est tout ce que je peux te dire.
C'était mon moment de gloire de la journée,
exactement,
c'est ça?
C'est ça que tu veux dire.
On va passer maintenant à... Donc ça, c'était un peu mon coup de gueule du week-end. Toi, t'as un coup de gueule du week-end aussi à passer sur la programmation des matchs.
Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que avant, alors, moi, je suis très conservateur et j'adorais. Et tu le sais, j'adorais mon multiplex de 15h.
Et tout le monde l'adorait, ce multiplex.
Eh oui. Et alors maintenant, alors, il y a pas de évidemment qu'il y a des plus petits matchs, j'ai pas envie de négliger les autres équipes au-delà du la Lazio, Milan, Naples, Juve, Inter, évidemment que non. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien à 15h mettre devant Sky et puis voilà avoir ce multiplex avec 5-6 matchs où il y avait des buts, où ça bougeait. Et maintenant honnêtement, alors je sais pas toi, mais c'est vrai que le dimanche à 15h, on est d'accord que c'est pas le spectacle qu'on aimerait voir. Moi, j'avais l'habitude de tous ces matchs. Alors maintenant, il y a de la Serie A tout le temps, le samedi midi, enfin le samedi midi, le samedi à 15h, 18h, 20h30, le dimanche midi et demi, 15h, il y a 3 matchs. Après, il y a 18h, 20h30, et ce soir, donc lundi soir, il y a encore un match. Alors moi, c'est pas un coup de gueule, mais c'est vrai que ce multiplex de 15h me manque beaucoup. Et moi, j'aimais bien me caler devant la télé et avoir plusieurs matchs. Avoir, tu sais, aussi le Sky après, tu sais, les interviews d'après-match, oui. C'est très classique en Italie. Alors en France, c'est pas très, on va dire, tout le monde s'en fout. Il y a 15 minutes et puis c'est fini. Alors qu'en Italie, tu sais, bah voilà, tu l'as vu, sur Sky, c'est 2 heures.
Exactement.
2 heures avec toutes les réactions. Toi, je pense que t'as aussi connu, sur la RAI, tu te rappelles, oui. Aussi, tout le catch, au minute, au pas minute, ou après les matchs, t'avais ces interviews qui duraient très longtemps.
Généralement, c'est la règle des 8 minutes. On appelle ça en Italie, où le diffuseur a le droit à 8 minutes d'interview avec un joueur et 8 minutes avec un entraîneur après le match.
Et après, au-delà des horaires, c'est vrai que, bon, DAZN, alors certes, maintenant, on le sait, le football est hyper commercialisé, il y a plusieurs diffuseurs, mais c'est vrai que c'est aussi compliqué quand tu es en France de suivre. Alors, il y a beIN, certes. Et moi qui ai la chaîne italienne, c'est vrai qu'avec DAZN, c'est assez compliqué parce que des fois ça saute, ça bug. Donc c'est vrai que cette saison, c'est la première fois où tout n'est pas sur Sky. Donc c'est vrai qu'entre les horaires et les diffuseurs, cette saison est un peu particulière. Donc moi voilà, j'aimerais bien qu'un jour on revienne aux bonnes vieilles traditions. D'ailleurs, on peut dire que la Bundesliga,
oui.
A annulé son match du lundi soir.
Ouais.
Donc tu vois, petit à petit,
tout n'est pas perdu.
Exactement, on repense et j'ai envie d'y croire. Donc ça sera beaucoup mal ici à la fin de saison.
Mais c'est vrai que 3 horaires le samedi, déjà, c'est trop.
Oui.
Traditionnellement, le jour du football en Italie, c'est le dimanche, c'est pas le samedi.
Exactement.
Et là, si on fait le compte, par exemple cette semaine, mais ça a été le cas de quasiment toutes les semaines, si on fait les 3 matchs du samedi plus un du lundi, il y a 40% du championnat qui ne se dispute plus le dimanche. Donc voilà, je plus sois ton coup de gueule. Parce qu'en plus ça fait éclater les matchs dans tous les sens. Alors certes on peut en voir plus, mais après voilà, on va pas voir non plus 10 matchs hein, de Serie A chaque semaine hein. Les gens ont une vie, etc. Donc c'est pas forcément parce que tu vas plus les éclater que tout le monde va tout regarder non plus. D'autant plus que maintenant ton multiplex est hyper faible, parce que t'as quasiment aucun des 6 gros clubs qui jouent lors de ce multiplex. Ça arrive quasiment jamais. Donc voilà, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de gens en France, pour prendre le territoire où on est, qui vont se dire le dimanche à 15h, chouette, on va regarder Empoli ou Udinese. Voilà. Bah non,
oui,
non, jamais personne.
Donc, par contre, tu vois, le dimanche à midi et demi, par exemple, à Milan, à San Siro, il y avait quand même 60 000 personnes, 53 000
ouais.
Précisément. Donc ça, On sait que le dimanche en Italie, les gens vont beaucoup au stade. Alors, l'horaire idéal, il faut savoir, c'est 15h. Dimanche à 15h, t'as toujours du monde.
À midi 30, il y avait la messe, il y avait le repas en famille.
Exactement. Et maintenant, tous les gros, alors je pense que tu as remarqué, mais il n'y a aucun gros qui joue à 15h le dimanche.
Non, jamais.
On a une Naples, alors je crois que c'était la semaine dernière, c'était avec le Chievo, qui a joué à 15h.
Je me demande s'il n'y a pas eu aussi la Roma contre la Samp.
Ah, et contre Bologne aussi, peut-être. Peut-être contre Bologne aussi, non?
Non.
Ou c'est à 18h? Ah, c'était à 18h.
Je sais plus.
Mais c'est vrai que maintenant, c'est trop dispatché. Et c'est vrai qu'en Italie, les matchs, c'était le dimanche, 15h. Voilà. Et à partir du moment où tu modifies tout, où tu bouleverses les programmes, bah, c'est vrai qu'on s'y retrouve plus. Et... alors, je me suis coltiné un joli Spal Frosinone samedi à 15h.
Oui, bon, après ça, c'est un choix. C'est un choix personnel.
J'avais du temps.
C'est la folie. C'est autre chose.
Je vais te dire, je me suis régalé. C'était un beau match. Mais c'est vrai que tu vois, ce match-là, donc, dimanche à 15h.
Est-ce que ton petit chouchou de la Spal a fait une passe décisive? La réponse est oui.
Il a fait une passe décisive. Mais évidemment. Évidemment qu'il a fait une passe décisive, mon Lazari. Évidemment. Mais tu vois, ce match-là, qu'est-ce qui t'empêche de le mettre dimanche à 15h? Rien. Rien. Donc, c'est vrai que maintenant, les diffuseurs ont la priorité. Bon, pour l'argent qu'ils dépensent, on peut aussi le comprendre. Mais c'est vrai que voilà, moi, je suis très, très traditionnaliste, j'aurais bien aimé et j'aimerais bien que dans le futur on revienne à ce multiplex à 15h.
Alors, question de tradition, ce joueur en est un, Sergio Pellissier.
Transition.
Et oui, bien sûr.
Que dire sur Sergio? Sergio qui a encore marqué hier face à la Lazio, 39 ans. Il aura 40 ans l'année prochaine, en avril, si je ne m'abuse.
Oui.
Et c'est vrai que voilà, l'image était belle parce qu'il a fêté son but dans les bras de son fils qui est ramasseur de balles au Chievo. Mais c'est surtout au-delà du joueur, c'est vraiment un bon gars, comme on dit un peu familièrement. C'est quelqu'un de bien, je pense que tu es d'accord.
Ouais.
Dans tous ces
quelqu'un de bien personnellement, je ne sais pas, hein, je ne le connais pas.
J'ai pas été manger pizza hier, mais dans le sens où voilà, c'est quelqu'un, c'est la vieille génération. On en a plein, des Colliarella, on a plus.
C'est la fin de cette génération, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on s'attache aussi à ces joueurs-là, c'est que.
C'est vrai.
On a eu dans les plus récents, dans les dernières années, il y avait évidemment Totti, il y a eu Nesta, Di Natale, il y a eu
Totti.
Voilà, mais là effectivement, là. Pellissier, on va vers la fin de cette génération.
Mais il a encore le niveau parce qu'hier il a été élu, j'ai regardé la Gazzetta, meilleur joueur du Chievo.
Bien sûr.
Il marque un beau but.
Et quelle passe décisive de Walter Bissin.
Magnifique.
Et non pas Walter.
Valter Bielsa, en 5000 années d'ailleurs, soulignons-le. Mais c'est vrai qu'il a encore été bon, il a encore marqué dans la combativité. On se rappelle du poste qu'il avait mis sur Ventura quand l'ancien sélectionneur était parti, où c'est vrai qu'on sentait touché du fait que Ventura, voilà, n'était pas un entraîneur top, qu'il était parti un peu comme un voleur. Alors que
c'est plus que pas être un entraîneur top, parce que ça, on le sait depuis pas mal de temps, oui. C'est plutôt l'attitude qui avait été assez dramatique.
Oui, là, il était parti comme un voleur, et du coup, le Chievo, lanterne rouge, c'était assez compliqué. Mais c'est vrai que Pellissier, c'est vraiment un exemple pour tous ses coéquipiers, dans le sens où il a fait un match exemplaire, parfait. La victoire n'a pas été au bout, mais voilà, je tenais à souligner un coup de chapeau à Pellissier, qui me rappelle, tu vois, par exemple, Di Natale, à l'Udinese.
Ouais.
Un peu dans le sens où, voilà, c'est un buteur, il a l'expérience. En Italie, on sait qu'on aime bien les joueurs un peu âgés. voilà,
vrai.
Je tenais à souligner et à envoyer mes amitiés à l'ami Serge.
D'accord, bon, il nous écoute bien sûr. Hein. En plus, il est parfaitement bilingue, j'imagine. Donc,
évidemment.
Et on va finir par Palerme, puisque c'est officiel, depuis le 1er décembre, Palerme a été racheté par des investisseurs basés à Londres. Zamparini, le propriétaire qui était là depuis 2002. D'ailleurs, l'ancien propriétaire de Palerme, c'était Franco Sensi, qui était aussi propriétaire de la Roma en son temps. Donc a laissé la main Maurizio Zamparini, qui était appelé le mange-entraîneur quand même. Ça, c'est
combien de changements?
Alors, 43 changements d'entraîneur quand même sous sa présidence. C'est quand même pas mal, hein, en 16 ans d'exploitation du club, 43 changements d'entraîneur, c'est pas vilain.
Si tu veux, j'ai 2-3 noms qui pourraient te souvenirs.
Eh ben, bien sûr.
Alors, j'ai Del Neri.
Oui.
J'ai Guidolin.
Del Neri, on va quand même le préciser, hein, il a fait toute sa carrière sur la saison du Chievo, qui termine, je crois, quatrième de mémoire.
Exactement.
Mais il a fait toute sa carrière sur une seule saison avec le Chievo. Hein. Partout où il est passé ensuite, à la Juve, à la Roma, c'était une catastrophe absolue, à l'Udinese, et catastrophe absolue, etc.
J'ai des noms, alors, un nom un peu meilleur, Gasperini quand même.
Ah oui. Aujourd'hui, il fait des miracles à l'Atalanta.
Exactement. Alors, il y a eu Malesani, célèbre pour ses coups de gueule mémorables.
Si vous voulez passer une bonne soirée, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, un petit conseil, vous allez sur YouTube, vous tapez Malesani, à mon avis ce sera la première vidéo, hein, quoi qu'il arrive, et c'était une colère de quand il était au Panathinaikos, il me semble, hein, en Grèce, je crois que c'était ça, hein. je sais pas si j'ai pas de bêtises, mais regardez ça, ça dure une dizaine de minutes, c'est mémorable.
C'est exceptionnel, alors ils ont eu aussi... alors Guidolin on l'a dit, Daniel on l'a dit, qui c'est que j'ai d'autres sous la main, j'ai Colantuono, j'ai Dzenga, j'ai Deliorossi.
Ah, Deliorossi, bien sûr.
J'ai CL Secos, mais avec son fameux bouc.
Et sa casquette.
Et sa casquette. J'ai Bortolo Muti. Je vous ai payé Sanino, tu t'en souviens, on en a parlé il y a pas longtemps.
Oui, il y a pas longtemps, qui était vu comme l'un des entraîneurs prometteurs, il y a quelques années.
Entraîneur plus prometteur, j'ai De Zerbi à ton frère, si tu veux.
Ça, c'est pas mal.
Voilà, j'ai Ballardini, on retrouve beaucoup ces entraîneurs qui passent un peu partout en Italie, hein. Iacchini, Ballardini. D'ailleurs, Juric, hein, on en parle au Genoa, mais il est déjà sur la sellette. Ce qui est assez drôle parce qu'ils sont joués il y a pas longtemps. On parle de manche entraîneur. Donc, Preciosi, dans le.
Ah bah, c'est le deuxième. Oui. À une époque, on avait le triptyque légendaire en Serie A. Donc, on avait Zamparini à Palerme, Preciosi au Genoa et Cellino à Brescia.
Ah oui, exact.
Ça, c'était les trois qui changeaient d'entraîneur comme de chemise, tout simplement.
Exactement. Il y a aussi un fameux Walter Zenga.
Et on a parlé tout à l'heure de Davis Mangia.
Oui.
Qui était l'entraîneur des U21 italiens et qui aussi était vue comme une promesse de jours heureux.
Et là, de nouvelles vagues. L'actuel entraîneur, est-ce que tu sais qui c'est? L'actuel entraîneur de Palerme.
Eh bien, pas du tout.
Ancien joueur du Torino, du Genoa, de la Regina, il est passé par Naples, il est passé par Parme, par le Napoli, attaquant.
Ouais. Par Parme, tu m'as dit quoi? Par Parme, mais...
Alors, il est passé... Est-ce que tu veux sa carrière?
Allez, sa carrière. On peut faire le quiz en même temps pour nos internautes.
Il est passé par Parme,
ouais.
Par Lecce, par Napoli, par la Regina, par le Genoa, par le Torino et par Frosinone. Et en entraîneur, il est passé deux fois par Frosinone, par Bari et là pour la deuxième fois à Palerme. Et c'est un joueur.
Stellone.
Exactement. Bien.
Oui, qui était à Frosinone il n'y a pas longtemps.
Exactement. Roberto Stellone qui est l'actuel entraîneur de Palerme.
Et écoute, on lui souhaite beaucoup de courage. Non mais blague à part, ça serait bien que Palerme retrouve un peu lustre d'antan, entre guillemets. Non pas que ça a été un club hyper historique de la Serie A, mais dans les années 2000-2010.
Ils ont eu des sacrés joueurs.
Important. Ils ont eu des sacrés joueurs, et donc je me suis amusé à faire un petit 11 des joueurs de Palerme, de l'ère Zamparini. Alors tu m'as dit Cavani, hein, tout à l'heure.
J'ai dit Cavani, j'ai dit Micoli.
Ah, je l'ai mis en remplaçant Micoli. Parce qu'il y avait quand même Luca Toni en attaquant.
Est-ce qu'au but, t'as mis Sirigu?
Bien sûr.
Allez, vas-y, dévoile-moi ta défense. Défense à 4?
Défense à 4 avec Zaccardo, l'arrière droit champion du monde, Barzagli, défenseur central champion du monde, Simon Kjær, le Danois, qui avait fait une saison absolument magnifique, et d'ailleurs, ça a été sa meilleure saison de l'histoire de ses saisons footballistiques, et Fabio Grosso. Il y avait quand même 3 défenseurs de Palerme champion du monde, et ça, c'est beau. Ensuite, un milieu de terrain avec beaucoup de créateurs. Alors, j'ai mis un champion du monde aussi parce que je pense qu'il y a peu de gens qui se rappellent que Simone Barone était champion du monde. Et ça, c'est quand même.
Et d'ailleurs, Barone qui attend toujours la passe d'Inzaghi au mondial 2000. Contre là, c'était la République tchèque, il me semble peut-être, hein, où il passe pas son ballon alors qu'il est Inzaghi. Il est baronné là-dedans depuis à peu près maintenant 12 ans.
Ensuite, donc, on baronné. A deux créateurs milieu de terrain avec Franco Vasquez, qui est aujourd'hui à Séville, et Javier Pastore, qui est aujourd'hui à la Roma. Évidemment. En numéro 10, Paulo Dybala. Et puis devant, donc, Luca Toni et Edinson Cavani. Avec en remplaçant, on a du Glick, Ilicic, Micoli, Belotti. Donc, c'est quand même pas vilain non plus.
Ah oui. Que tu veux mettre sur le banc aussi. Moi, j'ai un nom qui est comme ça. Alors,
Balzaretti.
Je vais faire deviner un joueur qui célébrait et qui ne bougeait pas. Statique. Australien.
Ah, Brescia, non?
Évidemment. Évidemment, c'est célébration mythique.
Et oui.
Ah oui.
Et on avait aussi un joueur que j'aimais beaucoup, très fin techniquement, Franco Brianza.
Ah, avec un pied gauche.
Très intéressant, un super pied gauche.
Ouais, qui a joué à la Regina aussi, il me semble.
Oui. Ouais. Et c'était vraiment un joueur que j'aimais aller vraiment plus haut en termes de niveau individuel, mais qui était vraiment un très beau joueur. Écoute, on va conclure ce podcast sur ce 11 de rêve de Palerme. On sait qu'on a des... Alors, j'aimerais bien retrouver son nom. Il faudrait que tu meubles quelques instants.
Dis-moi, je peux meubler.
Tu pourrais chanter, je sais pas, une chanson de Ramadotti.
mais je peux lui dire que ce 11 de Palerme m'a mis un sacré coup de vieux, parce que c'est vrai que les Micoli, les Pastore, les Cavani, les Brienza, c'est vrai que c'est un peu le football.
Il y avait David Di Michele aussi. Hein.
Évidemment, David Di Michele, petit et très bon, qui marquait souvent. Mais c'est vrai que Palerme a une place assez importante. Et c'est vrai qu'on aimerait bien qu'elle revienne. Alors, on peut souligner aussi que le fonds qui a racheté Palerme, elle a racheté pour 10 euros symboliques. Mais voilà, de ce que j'ai lu, apparemment, une promesse d'investissement d'environ 22 millions d'euros. Donc, ce qui n'est pas rien.
Oui, s'il y a beaucoup de dettes à éponger.
Voilà, les 10 euros circulent beaucoup. Voilà, ça fait du buzz, mais c'est pas du tout ça. Donc voilà.
Donc tu as très bien, bien meublé. Je te mettrais presque dans mon salon. tu es un très beau meuble. Alors il y avait plusieurs choses. Il y avait donc un certain Jean Bombeur, hein, excellent. On est proche de Jean Roucas là au niveau humour, qui nous disait que pensez-vous d'une rubrique 11 de légende pour chaque gros club italien, voire plus si vous vous en sentez capable. Alors sache déjà qu'on s'en sent capable et qu'on n'a peur de rien, sauf évidemment d'un tacle de Christian Poulsen. C'est le seul truc à peu près qui peut nous faire peur.
Au pire, enfin comme Totti.
Exactement. Oui, exactement. Oui. Un petit crachat dans la nuque, ça ne fait jamais de mal. Donc on le fera, évidemment. Là, on l'a fait avec Palerme, mais quand l'actualité s'y prêtera ou pas d'ailleurs, s'il y a un peu moins d'actualité, on reviendra sur certains 11 de légende où ça fait toujours un peu polémique parce que et pourquoi vous n'avez pas mis telle personne et pourquoi vous n'avez pas mis tel joueur, etc. On avait ensuite une question de Tibson ou Tibson, hein, je ne sais pas s'il veut la faire à l'islandaise ou à la française. Il nous demandait, d'après vous, d'où vient cette nonchalance qu'on revoit un match sur deux avec la Roma. Di Francesco a ses torts, mais je ne comprends pas pourquoi l'équipe ne semble pas capable de presser correctement d'un match à l'autre. Et bien effectivement, il y a un énorme problème de pressing cette saison. On sait que la Roma ne presse pas dans des zones, mais elle presse le joueur. Ça, c'est Di Francesco, ça presse de joueur à joueur. D'où ça vient ce manque d'intensité dans le pressing? Éventuellement de la préparation physique qui expliquerait aussi le nombre de blessures. Et puis aussi le fait qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs qui doivent intégrer comment Di Francesco veut que son équipe presse à la perte du ballon. Et puis la nonchalance, c'est l'environnement de Rome, hein, c'est la vie est belle, il fait beau, on gagne pas mal d'argent et on oublie un peu l'exigence du haut niveau, mais ça c'est historique du côté de la Roma et c'est ce qui fait toute la différence, notamment avec la Juve par exemple. Et puis on avait Bakayoko, il est devenu bon. Question de Jérém Attal.
Oui, la réponse est oui.
Est oui. Il est même devenu très bon. On t'encourage à écouter ce qu'a dit notamment Guillaume en ce début de podcast. Voilà, c'était les quelque chose que j'avais noté. Continue à suivre Calcio EPP sur Twitter parce qu'on fait un calendrier de l'avant, hein, avec des photos un peu vintage du football italien. On a commencé je sais même plus, on a commencé par quoi, on a donc eu la défense de Parme, Cannavaro, Thuram,
Maradona, Michel Platini,
Maradona au Club Med, on aura un peu de Batistuta, on aura quelques du Roberto Baggio, allez, on vous donne quelques noms, on aura du Totti, on aura voilà, quelques
régale.
Noms évidemment régalade. Vous pouvez donc nous suivre évidemment sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur Deezer, sur Spotify, sur Facebook, et évidemment aussi sur iTunes et sur Google Podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à partager hein, le podcast sur les réseaux sociaux et à nous mettre un petit commentaire et les 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aidera à faire découvrir ce podcast au plus grand nombre de gens possible. On s'arrête là, Guillaume, pour cette semaine.
Ouais. Allez.
C'est terminé. On fait même pas le petit rappel de la semaine prochaine, 13e journée?
Tu me l'offres comme ça.
Alors, c'est pas 13e journée, en plus, c'est 15e, mais.
Voilà. Déjà, tu commences mal. Alors, ouais. Est-ce que je peux dire qu'il y a vendredi, il y a eu Inter, je le rappelle, je le souligne.
Voilà.
Bah, histoire que les auditeurs fassent rien. On redit. Pas de sortie.
Est-ce que tu veux qu'on revienne sur, on va pas donner tout le programme, mais puisque t'as fait ton coup de gueule sur la programmation, on va juste parler du multiplex de dimanche 15h.
Dieu sait, je sens que ça va être un régal. Dimanche.
Avec Empoli Bologne, avec Parme Chievo et Udinese Atalanta.
Allez.
Voilà.
Coupons là. Coupons.
Voilà. Donc dimanche à 15h, vous pouvez éventuellement faire autre chose.
Et samedi?
Et samedi, nous avons à 15h Naples-Frosinone, à 18h Cagliari-Roma, et à 20h30 Lazio-Sampdoria. Alors, si on fait le combo, la Roma joue samedi, et à Cagliari, un club qui ne lui réussit pas en termes de déplacement, et un horaire, et un jour qui ne lui réussissent pas depuis le début de la saison, si vous avez quelques sous à mettre, éventuellement, si vous êtes adepte de Paris
Sportif.
Et le repas
de dimanche midi sera animé par...
Ah, là par contre ça m'intéresse. C'est peut-être le match qui m'intéresse le plus derrière Juve Inter, c'est Sassuolo Fiorentina.
Ah,
et oui, ça c'est pas mal.
En effet,
et on conclut dimanche 18h Genoa Spal et 20h30 l'admirable Chimwe Bakayoko face à Rincon par exemple, on peut dire au milieu de terrain du Torino. Milan Torino 20h30 à San Siro ce dimanche. On s'arrête là pour cette semaine. On espère que le podcast vous plaît toujours autant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des remarques, comme d'habitude, on a reçu quelques messages cette semaine, donc on prend en compte évidemment vos remarques et vos idées de sujets. N'hésitez surtout pas, et nous on se dit donc à la semaine prochaine. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tous.